J'avais une dernière façon d'évacuer le stress, dont je n'aimais pas parler et qui était une source de crispation depuis le début de mon mariage. Je fumais encore 5 ou 6 ou 7 cigarettes par jour. C'était un vice ne datant pas d'hier, hérité de ma jeunesse rebelle. Face à l'insistance de Michel, j'avais déjà arrêté plusieurs fois au fil des ans, et je ne fumais jamais dans la maison ni devant les enfants. Une fois élu au Sénat, j'avais cessé de fumer en public, mais une part têtue de moi résistait à la tyrannie de la raison, et les tensions de la vie sur la route, à faire campagne, les interminables trajets en voiture au milieu des champs de maïs, la solitude des chambres de motel, avaient concouru à ce que je continue à tendre la main pour attraper le paquet que je gardais toujours dans une valise ou dans un tiroir. Après l'élection, je m'étais dit que c'était le bon moment pour arrêter. J'étais par définition constamment en public dès que je sortais de la résidence de la Maison-Blanche. Mais j'étais tellement occupé que je repoussais sans cesse le grand jour. Je m'échappais jusqu'à la cabine de piscine, derrière la Maison-Blanche, après le déjeuner, ou montais sur la terrasse du deuxième étage quand Michel et les filles étaient au lit, tirant une longue bouffée et regardant la fumée monter en volute vers les étoiles, me promettant d'arrêter une bonne fois pour toutes quand les choses se seraient tassées. Or, les choses ne se sont jamais tassées. Tant et si bien qu'au mois de mars, ma consommation quotidienne était passée à 8 ou 9 ou 10 cigarettes. Ce mois-là, d'après les estimations, 663 000 Américains perdraient leur emploi et le taux de chômage montrait à 8,5%. Les saisies immobilières continuaient à un rythme qui ne semblait pas vouloir ralentir et le crédit était toujours gelé. La bourse atteindrait ce qui serait son seuil le plus bas de la récession, une chute de 57% par rapport à son plus haut niveau, les actions de Citigroup et de Bank of America ne valant pratiquement plus rien. Pendant ce temps, AIG était comme un puits sans fond, son unique fonction étant apparemment d'engloutir le plus d'argent du TARP possible. Tout cela aurait amplement suffi à faire monter ma tension. Ce qui ne faisait qu'aggraver les choses, c'était l'attitude des cadres de Wall Street, alors même que nous nous efforcions collectivement de leur sauver la peau. Juste avant que j'entre en fonction, par exemple, les patrons de la plupart des grandes banques s'étaient octroyés à eux-mêmes et à leurs lieutenants plus $1 milliard de bonus de fin d'année, alors qu'ils avaient déjà reçu des fonds du TARP pour soutenir le cours de leurs actions. Peu après, les cadres de Citigroup, à les comprendre, ont trouvé judicieux de commander un jet pour la société. Comme nous étions vigilants, un membre de l'équipe de team a pu appeler le directeur général de la société et lui a fait les gros yeux pour qu'il annule sa commande. Pendant ce temps, les cadres supérieurs des banques se hérissaient, parfois en privé mais souvent dans la presse, lorsqu'on suggérait qu'ils avaient tout de même déconné ou qu'il convenait d'imposer un cadre à la gestion de leurs affaires. Cette réaction culottée était notamment celle des deux opérateurs les plus futés de Wall Street, Lloyd Blankfein de Goldman Sachs et Jamie Dimon de JP Morgan Chase, tous deux affirmant avec insistance que leurs établissements avaient évité les mauvaises décisions de management qui avaient plombé les autres banques et que ni l'un ni l'autre ne voulait, ni n'avait besoin, d'une aide de l'État. Ces affirmations étaient valables uniquement si l'on faisait abstraction du fait que la solvabilité des deux établissements dépendait entièrement du Trésor et de la Fed qui maintenaient le reste du système financier à flot et du fait que Goldman en particulier avait été l'un des plus gros revendeurs de produits financiers dérivés des subprimes qu'ils avaient refourgués à des clients moins sophistiqués juste avant que tout le marché s'écroule. Leur inconséquence m'exaspérait. Ce n'était pas seulement que cette attitude de Wall Street vis-à-vis de la crise confirmait tous les stéréotypes sur les hyper-riches totalement déconnectés de la vie des gens ordinaires. Chacune de leurs déclarations irresponsables et de leurs actions égoïstes compliquait infiniment nos efforts pour sauver l'économie. Déjà, certains électeurs démocrates demandaient pourquoi nous n'étions pas plus sévères avec les banques, pourquoi l'État ne s'en emparait pas pour vendre leurs avoirs, par exemple, ou pourquoi aucun des responsables ayant causé de tels ravages n'avait été envoyé en prison. Les républicains au Congrès, affranchis de tout sentiment de responsabilité quant aux dégâts qu'ils avaient contribué à provoquer, se mêlaient avec empressement à la curée. Appelé à témoigner devant diverses commissions parlementaires, Tim, qui était à présent régulièrement présenté comme un ancien banquier chez Goldman Sachs, alors qu'il n'avait jamais travaillé chez Goldman et avait passé la quasi-totalité de sa carrière dans le service public, insistait sur la nécessité d'attendre les résultats du test de résistance. Mon procureur général, Eric Holder, ferait par la suite remarquer que, si le comportement hasardeux des banques avait pu conduire à la crise, rien, en revanche, n'indiquait que leurs responsables avaient commis des délits répréhensibles au regard des statuts existants, et notre vocation n'était pas de faire inculper des gens uniquement pour recueillir une moisson de gros titres favorables dans la presse. Mais les citoyens, à cran et en colère, ne pouvait se satisfaire de telles réponses, si rationnelles soient-elles. Conscient que nous étions au plan politique en train de perdre notre avantage moral, Axe et Gibbs nous ont pressés de condamner Wall Street avec plus de vigueur. Tim, au contraire, nous a prévenu que de telles prises de position populistes seraient contre-productives, qu'elles effraieraient les investisseurs dont nous avions besoin pour recapitaliser les banques. En essayant de ménager la chèvre et le chou, d'un côté le grand public qui en appelait à un châtiment biblique, de l'autre les marchés financiers qu'il fallait rassurer, nous avons fini par nous mettre tout le monde à dos. « On se retrouve comme dans une situation de prise d'otage », m'a dit Gibbs un matin. « On sait que les banques ont une ceinture d'explosifs à la poitrine, mais aux yeux des gens, c'est comme si on les laissait s'enfuir en toute impunité avec la caisse après un hold-up. » Les tensions étaient croissantes à la Maison-Blanche, mais je tenais à ce que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. À la mi-mars, j'ai donc convoqué mon équipe économique pour une séance marathon, un dimanche dans la salle Roosevelt. Pendant plusieurs heures ce jour-là, nous avons pressé Tim et ses collaborateurs pour qu'ils nous fassent part de leurs réflexions sur le test de résistance encore en cours. Cela allait-il marcher? Et dans le cas contraire, Tim avait-il un plan B? Larry et Christie avançaient l'argument que, à la lumière des pertes colossales de Citigroup et de Bank of America, il était temps d'envisager une nationalisation à titre préventif. Le type de stratégie que la Suède avait instaurée lorsqu'elle avait elle-même traversé une crise financière dans les années 1990. Une approche qui contrastait avec la stratégie dite « laxiste » qui s'était soldée pour le Japon par une décennie perdue de stagnation économique. En réponse, Tim a fait remarquer que la Suède, avec un secteur financier bien plus modeste et à une période où le reste du monde était stable, n'avait nationalisé que deux de ses plus grosses banques en dernier recours, tout en fournissant des garanties effectives pour les quatre qui restaient. Une stratégie équivalente de notre part, a-t-il dit, risquerait de détruire le système financier mondial déjà fragile et coûterait un minimum de 200 à 400 milliards. Les chances d'obtenir un sou de plus du TARP se situent quelque part entre 0 et 0, s'est écrié Ram en bondissant de sa chaise. Certains dans l'équipe ont demandé qu'on adopte au moins une position plus offensive vis-à-vis de Citigroup et de Bank of America, qu'on exige le départ de leur PDG et de leur conseil d'administration actuel, par exemple, avant de leur verser davantage d'argent du TARP. Mais Tim a rétorqué que de telles mesures seraient totalement symboliques et en outre nous placeraient devant la responsabilité de devoir trouver immédiatement des remplaçants capables de piloter des établissements qu'ils ne connaissaient pas au beau milieu de la crise. C'était un exercice épuisant et comme la session se prolongeait dans la soirée, je leur ai dit que je montais à la résidence dîner et me faire couper les cheveux. J'attendais d'eux qu'ils aient trouvé un accord quand je redescendrais. En vérité, j'avais déjà obtenu ce que je voulais de cette réunion. La confirmation qu'en dépit des problèmes tout à fait fondés que Larry, Christie et d'autres avaient soulevés à propos du test de résistance, cette option, compte tenu des circonstances, restait la meilleure. Ou, ainsi que Tim l'a formulé, un plan, ça vaut toujours mieux que pas de plan. Tout aussi important, j'avais l'assurance que nous avions procédé de manière rigoureuse. Notre équipe avait envisagé le problème sous tous les angles possibles. Aucune solution potentielle n'avait été écartée. Et tous ceux qui étaient impliqués dans le projet, du directeur de cabinet au plus jeune membre du staff présent dans la pièce, avaient eu l'occasion de peser dans la balance. Pour ces mêmes raisons, j'inviterai ultérieurement deux groupes d'économistes qui avaient publiquement remis en cause notre gestion de la crise à venir me voir dans le bureau ovale. Le premier de gauche, le second conservateur. Juste pour vérifier s'ils avaient des idées auxquelles nous n'aurions pas pensé. Ils n'en avaient pas. Si j'insistais tant sur la méthode, c'était par nécessité. Ce que je découvrais vite à mon poste de président, c'est qu'aucun problème atterrissant sur mon bureau, qu'il s'agisse de politique étrangère ou intérieure, n'avait de solution claire et nette à 100%. Si ça avait été le cas, quelqu'un, à un échelon ou à un autre, l'aurait déjà trouvé. Au lieu de quoi, j'étais tout le temps confronté à des probabilités. 70% de chance, par exemple, que la décision de ne rien faire aboutisse à un désastre. 55% de chance que cette approche-ci, plutôt que celle-là, résolve peut-être le problème. Et 0% de chance que cela se déroule exactement comme prévu. 30% de chance que la solution que nous choisissions, quelle qu'elle soit, ne fonctionne pas du tout, et 15% de chance qu'elle ne fasse qu'aggraver la situation. Dans de telles circonstances, partir en quête de la solution parfaite conduisait nécessairement à la paralysie. D'un autre côté, suivre son intuition signifiait trop souvent laisser ses préjugés ou le chemin de moindre résistance politique guider une décision, avec des faits triés sur le volet utilisés pour la justifier. En revanche, avec une méthode claire, qui me permettait de mettre de côté mon ego et de véritablement écouter, de m'appuyer de mon mieux sur des informations tangibles et la logique, en les abordant à l'aune de mes objectifs et de mes principes, J'ai constaté que je pouvais prendre des décisions difficiles et néanmoins bien dormir la nuit, sachant au minimum que personne dans ma position, disposant des mêmes informations, n'aurait pris de meilleures décisions. Une bonne méthode supposait aussi que je puisse permettre à chaque membre de l'équipe de sentir qu'il avait pesé de façon déterminante dans la décision finale, ce qui impliquait une meilleure mise en œuvre et moins de contestation des arbitrages de la Maison Blanche via des fuites dans le New York Times ou le Washington Post. En redescendant après m'être fait couper les cheveux ce soir-là, j'ai senti que les choses s'étaient déroulées comme je l'avais espéré. Larry et Christy étaient d'accord pour conclure qu'il était raisonnable que nous attendions de voir ce que donnaient les résultats du test de résistance avant de prendre des mesures plus drastiques. Tim a accepté quelques propositions utiles pour se préparer à d'éventuels mauvais résultats. Axe et Gibbs ont proposé des idées pour améliorer notre stratégie de communication. Au final, j'étais content du travail de la journée. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un soulève la question des bonus d'AIG. Apparemment, AIG, qui avait pour l'instant perçu 170 milliards de dollars du TARP et avait besoin de davantage, était contractuellement tenu de verser à ses employés 165 millions de dollars de primes. Pire encore, une bonne partie des primes irait à la division qui avait précisément pris des risques inconsidérés sur le marché des dérivés des subprimes. Edward Liddy, le PDG d'AIG, qui lui-même n'avait rien à se reprocher car il n'avait que tout récemment accepté de prendre gracieusement les rênes de la société et ne se versait qu'un dollar par an, reconnaissait que les primes étaient inconvenantes. Mais selon Tim, Liddy avait été informé par ses avocats que toute tentative de bloquer les paiements ferait l'objet d'attaques en justice de la part des employés d'AIG ayant toutes les chances d'obtenir gain de cause et que les dommages et intérêts s'élèveraient potentiellement à 3 fois le montant initial. Pour couronner le tout, l'État n'avait pas, semblait-il, l'autorité pour empêcher le versement des bonus. En partie parce que le gouvernement Bush avait fait pression auprès du Congrès pour que ne soient pas incluses les dispositions dites de rattrapage à la loi originale du TARP, craignant que cela ne décourage la participation d'institutions financières. J'ai balayé la pièce des yeux. C'est une plaisanterie, hein? Vous fichez de moi, là, les gars. Personne n'a ri. Axe a commencé à défendre l'idée que nous devions tenter d'empêcher les versements, même si c'était pour finalement échouer. Tim et Larry ont réfuté ces arguments, ont reconnu que la situation était désolante, mais ont fait valoir que si le gouvernement imposait de force une violation de contrat entre deux parties privées, nous causerions des dégâts irréparables à notre système fondé sur le libre marché. Gibbs est intervenu pour suggérer que la morale et le sens commun l'emportaient sur le droit des contrats. Au bout de quelques minutes, j'ai interrompu tout le monde. J'ai demandé à Tim de vérifier s'il y avait un moyen d'empêcher AIG de verser les primes, sachant pertinemment qu'il reviendrait bredouille. Puis j'ai demandé à Axe de préparer une déclaration condamnant le versement des bonus que je prononcerai le lendemain, sachant pertinemment que rien de ce que je pourrais dire ne réduirait les dégâts. Puis je me suis dit que c'était encore le week-end et que j'avais besoin d'un martini. C'était une autre leçon que la présidence m'enseignait. Parfois, votre méthode avait beau être irréprochable, cela n'avait pas d'importance. Parfois vous étiez coincé, et la meilleure chose à faire était de boire un petit remontant et de s'en griller une. Quand la nouvelle des bonus d'AIG a été divulguée, la colère refoulée depuis plusieurs mois a atteint un paroxysme incontrôlable. La Chambre a rapidement adopté un projet de loi pour imposer à 90% les bonus pour les gens dont les revenus annuels excédaient 250 000 dollars, mais le Sénat l'a rejeté en bloc. Dans la salle de presse de la Maison Blanche, Gibbs devait répondre au pied levé à des questions portant exclusivement sur ce sujet. Code Pink, un groupe pacifiste excentrique dont les membres, des femmes pour la plupart, s'habillaient en t-shirt rose, chapeau rose et parfois boa rose, a appelé à des manifestations devant des bâtiments fédéraux et a déboulé à des auditions où Tim apparaissait, brandissant des pancartes avec des slogans tels que « Rendez-nous nos dollars », manifestement insensible à l'argument de l'inviolabilité des contrats. La semaine suivante, j'ai décidé de convoquer une réunion à la Maison Blanche avec les PDG des plus grosses banques et institutions financières, espérant éviter d'autres mauvaises surprises. Ils ont été une quinzaine à se présenter, uniquement des hommes, fringants et élégants, et tous m'ont écouté sereinement leur expliquer que la population était à bout de patience et que, au regard de la souffrance que la crise provoquait dans tout le pays, sans parler des mesures extraordinaires que l'État avait prises pour venir en aide à leurs établissements, la moindre des choses était qu'ils fassent preuve d'un peu de modération, voire consentent à quelques sacrifices. Lorsque leur tour est venu de répondre, chacun de ces cadres s'est fendu d'une version oscillant entre les trois options suivantes. A. Si le système financier avait des problèmes, ils n'y étaient vraiment pour rien. B. Ils avaient déjà consenti des sacrifices significatifs en réduisant drastiquement leur personnel et en diminuant leur propre rémunération globale. Et C. Ils espéraient que j'allais cesser de mettre de l'huile sur le feu en attisant la colère populiste, ce qui, disaient-ils, affectait de manière négative le cours de leurs actions et nuisait au bon moral du secteur. Pour étayer ce dernier point, plusieurs ont mentionné une interview récente dans laquelle j'avais déclaré que mon gouvernement consolidait le système financier dans le seul but d'éviter une dépression et non pas pour voler au secours d'une bande de fat cat bankers, de gros banquiers pleins aux as. À les écouter, on aurait dit qu'ils en avaient été vexés. Ce dont le peuple américain a besoin en ces temps de crise, a dit l'un d'eux, c'est que vous leur rappeliez qu'on est tous logés à la même enseigne. Je n'en revenais pas. Vous pensez que c'est à cause de ma rhétorique que les gens sont en colère ? J'ai pris une profonde inspiration, scruté les visages de ces hommes autour de la table, et j'ai compris qu'ils étaient sincères. Comme les traders dans la vidéo de Santelli, ces cadres de Wall Street étaient vraiment persuadés qu'on voulait injustement leur faire porter le chapeau. Ce n'était pas un stratagème. J'ai ensuite essayé de me mettre à leur place, me rappelant que c'était assurément des gens qui avaient travaillé dur pour en arriver là, qu'ils avaient joué le jeu de la même manière que leur père, et qu'ils étaient depuis longtemps habitués à l'adulation et à la déférence qu'on leur témoignait pour leur réussite. Ils versaient d'importantes sommes à diverses œuvres de charité. Ils aimaient leur famille. Ils ne comprenaient pas pourquoi, comme l'un d'eux me le confierait plus tard, leurs enfants leur demandaient s'ils étaient un de ces « fat cat bankers », ou pourquoi personne n'appréciait qu'ils aient si drastiquement diminué leur rémunération, passant de 50 ou 60 millions à 2 millions, ou pourquoi le président des États-Unis ne les traitait pas comme de véritables partenaires en acceptant, pour ne prendre qu'un exemple, la proposition de Jamie Dimon d'envoyer certains des meilleurs éléments de JP Morgan pour aider le gouvernement à concevoir nos propositions de réformes réglementaires. J'essayais de comprendre leur point de vue, mais je n'y parvenais pas. Au lieu de ça, j'ai repensé à ma grand-mère. Pour moi, cette femme du Kansas, figure de la prairie, représentait le banquier exemplaire. Honnête, prudent, exigeant, n'aimant pas prendre de risques, refusant de se précipiter, détestant le gâchis et la prodigalité, vivant selon le principe de la gratification différée et se satisfaisant tout à fait d'être un peu ennuyeux dans sa façon d'exercer son métier. Je me demandais ce que toutes penseraient des banquiers assis avec moi. Ce genre d'homme qu'il avait si souvent mouché, obtenant des promotions alors qu'elle restait à son poste, qui empochait plus en un mois qu'elle durant toute sa carrière, en partie parce qu'ils acceptaient de parier des milliards de dollars avec l'argent des autres sur des emprunts qu'ils savaient ou auraient dû savoir pourris. J'ai fini par laisser échapper un petit son entre rire et grognement. « Si vous permettez, je vais vous dire une chose, messieurs », ai-je déclaré en prenant soin de ne pas hausser le ton. « Les gens n'ont pas besoin de moi pour être en colère. La colère leur vient tout naturellement. La vérité, c'est qu'il n'y a plus que nous entre vous et les fourches. »